toujours rester avec vous. Nesrine Dahmouni, vous recevez ce matin Monsieur Jalal Bouha Abdallah, expert en transformation numérique. Bonjour Nesrine.
Bonjour Fatima Sharef, bonjour à tous et bonjour Monsieur Jalal Bouha Abdallah. Merci d'être en direct avec nous sur les ondes de la chaîne 3 et en direct de notre studio. On va commencer avec le sujet du jour, puisqu'on est, il nous reste qu'un week-end avant la rentrée scolaire et universitaire, et le dossier, l'un des dossiers importants de cette rentrée, eh bien, c'est la numérisation au niveau de ces deux secteurs. On a vraiment remarqué une avancée en la matière. Un petit exemple, hein, de nombreuses procédures d'inscription se font dorénavant en ligne. C'est une avancée, on n'a pas encore atteint le tout numérique, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu une vision globale d'où on est ce processus de numérisation au niveau déjà de l'éducation nationale, puisque la rentrée c'est dimanche.
Bonjour Céline et merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici.
Plaisir partagé.
D'ici. Alors, aujourd'hui, quand on voit un petit peu où est-ce qu'on en est avec le process de, je vais dire, de digitalisation ou de la mise en place de la transformation, de la stratégie de transformation numérique dans ces secteurs-là, déjà, il va falloir qu'on divise ou qu'on explique quels sont les différents secteurs qu'on a. En fait, on a déjà les trois premiers niveaux, que ça soit primaire, CM et lycée. On a le côté université et bien sûr, faut pas oublier le côté formation professionnelle.
Absolument.
Donc, si on essaie de voir un petit peu, ces quatre départements. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'apprenants, d'étudiants, d'élèves. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des actions, que ce soit en la mise en place d'outils numériques, d'inscriptions en ligne. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui n'a été fait. Au contraire, il y a des choses, il y a des actions. Par exemple, la mise en place de tablettes au niveau des primaires. Les inscriptions aujourd'hui sont plus ou moins 100% en ligne. Il y a carrément, comme je l'ai dit, il y a une distribution qui a été faite au niveau du ministère de la formation professionnelle. On a vu en l'espace de 10 mois un changement total et qui a vraiment boosté ce côté-là. L'université aussi, on peut même le remarquer sur d'autres chiffres, on pourra en parler tout à l'heure.
Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour ce qui est un petit peu de l'apprentissage, on voit que les enfants, eux déjà, ils sont dans tout numérique à partir d'un tout petit, 2 ans, 3 ans, ils ont déjà leur téléphone et les tablettes. Mais est-ce que les enseignants, eux, ont été formés à intégrer le numérique dans leur enseignement?
Alors, c'est là où on va parler de stratégie de transformation numérique dans ces secteurs-là. Mmh. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, ou comme on dit en anglais, des stakeholders, qui agissent dans cette stratégie. On a les apprenants ou les étudiants. Donc, eux, si on prend les gens qui sont les élèves au niveau du primaire, CM, lycée, c'est là cette génération Y, cette génération Z, cette génération Alpha. Mm-hmm. qui est né avec un téléphone, qui connaît aujourd'hui Internet. Ce n'est pas notre cas. On connaissait autre chose. On connaissait d'autres outils. Eux, ils sont totalement inside. Mm-hmm. On a ceux qui sont en université qui utilisent déjà Internet et les outils numériques dans leur quotidien. Et bien sûr, la formation professionnelle. Le deuxième acteur, ce sont les formateurs, les enseignants, les professeurs. Aujourd'hui, il y en a ceux qui viennent de notre génération et qui ont été accompagnés. Aujourd'hui, il faudrait aussi les former, surtout aux outils numériques et aux les différents aspects qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a tout un changement, il y a tout un bouleversement dans ce côté-là. On parle d'IA, d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle de e-learning, on parle d'apprentissage à partir de la maison,
voilà.
Et de même d'assistants virtuels, de professeurs virtuels, donc il y a beaucoup de choses. Donc il y a ce côté-là. Il y a un troisième côté que parfois, on néglige, on en parle peu, c'est l'infrastructure. En fait, l'infrastructure, c'est-à-dire que ce sont les outils, ce sont les équipements informatiques. On peut pas enseigner. En fait, aujourd'hui, si je veux donner des tablettes au niveau des primaires, des CM ou des lycées, il va falloir que tout le lycée ou tout ce primaire, cette école primaire ou établissement ou ce CM doit avoir une connexion Internet, il doit avoir du Wi-Fi, des équipements. Aujourd'hui, si on voit le nombre d'étudiants Oui. Entre, entre primaire, CM, lycée, c'est presque 12 millions.
Absolument.
C'est énorme. Donc, c'est, si je dis 12 millions de tablettes, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 12 millions de tablettes en parallèle, en cas où la tablette...
Et des petits problèmes techniques.
Exactement, voilà. Tout à fait. Il va falloir parler d'infrastructures, de systèmes d'enseignement, de formation, d'évaluation. Mmh. Il y a aussi le côté administratif. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait voir. Et je pense que il y a des actions dans ce sens-là.
Alors, c'est quoi l'objectif du tout numérique, on va dire, à long terme? On va même pas dire court ou moyen terme. À long terme, le tout numérique, c'est quoi l'objectif, toujours dans le domaine de l'enseignement?
En fait, quand on parle du numérique, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou dans n'importe quel domaine, en fait, le numérique apporte transparence et équité. En fait, aujourd'hui, on peut tracer, on peut voir ce qui se passe, on peut évaluer et sans qu'il y ait des aujourd'hui, parce que quand on part vers le zéro papier, quelque chose, le papier n'est pas traçable. Très oui. difficilement traçable. Mm-hmm. Par contre, tout ce qui est numérique, là, on sait celui qui a fait, celui qui n'a pas fait, s'il y a eu des erreurs, il n'y a pas eu d'erreur. Est-ce que on peut vraiment avoir les bonnes statistiques? Et ça va aider nos gouvernants pour mieux travailler sur des stratégies à court et moyen terme.
Il y a quand même un frein au tout numérique, puisque il y aura sûrement des inégalités du point de vue des régions.
J'allais parler de ça, en fait. Mm-hmm. Il faut travailler sur ce côté-là. Aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, on parle du tout numérique dans le secteur de la formation, donc cross-secteur, il va falloir aussi penser aussi aux autres régions. Là où Internet n'est pas accessible,
oui.
où la 4G n'est pas aussi accessible, où c'est très difficile d'amener la fibre optique, où aujourd'hui il y a aussi d'autres soucis, c'est l'acquisition, le coût d'acquisition des équipements informatiques. Aujourd'hui, c'est très très important. On peut pas parler du numérique si on peut pas avoir un PC ou un laptop.
En fait, c'est une question de budget.
Question de budget, question de réflexion. Aujourd'hui, en fait, le numérique est touché par plusieurs autres secteurs, surtout dans le domaine de la formation. Vu qu'on parle de formation, si je veux, par exemple, prenons un exemple concret. Si on veut mettre une classe type full digital, comment on va-t-on l'avoir? Ou plutôt une école full digital, comment on va l'avoir? On va dire que chaque apprenant, chaque étudiant, chaque élève va avoir une tablette. Mmh. Il faut que cette école doit avoir de l'internet. Il faut que cet internet soit être accessible à toute personne qui est dans l'enceinte de cette école. Il faut que cet internet ou ses accès doivent être sécurisés. Aussi, il va falloir travailler sur le système d'information qui va permettre au professeur de préparer ses cours,
voilà.
À l'administration de suivre les professeurs, à suivre les étudiants et les apprenants, les élèves. Il faudrait aussi permettre aux parents d'élèves d'accéder.
Absolument.
Et de vérifier et éviter ce fameux où tout le monde doit venir la fin du trimestre pour récupérer le bulletin. Donc vous remarquez dans tout ça, ok, c'est bien sur papier, mais après il faut mettre en place des actions concrètes.
C'est-à-dire une gestion, un budget.
Aussi, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait pousser nos startups, nos entreprises local à développer ce genre de système d'information, voire mettre en place des partenariats avec des constructeurs pour monter, fabriquer, ou peut-être, si on n'arrive pas, voir comment on peut importer. Donc, parce que ce côté-là, il faut avoir des équipements sécurisés, très importants, parce qu'on pourra en parler après sur cette partie-là
de
cybersécurité et de protection
absolument.
Des données, surtout quand on parle d'apprenants. Mm-hmm. Donc, vous voyez un petit peu de l'infrastructure. Donc, tout ça, ce n'est pas que l'affaire d'un seul département ou d'une seule institution. C'est plusieurs institutions qui sont concernées pour qu'on puisse travailler dessus.
Alors, je reviens à la question précédente parce qu'on va parler aussi du facteur humain. Est-ce que vous êtes également formateur? Est-ce que vous ressentez des freins, par exemple, de la part des enseignants quant à l'utilisation complète du numérique et puis leur adaptation à cela?
Aujourd'hui, on le voit. En fait, on est en train de sentir qu'il y a deux catégories de personnes aujourd'hui, ceux qui sont full digital ou qui sont pour le digital et ceux qui sont plus ou moins, ils préfèrent toujours la méthode traditionnelle. Dernièrement, je donnais une formation et il y a une citation de Monsieur Kai Fu Lee qui est l'ancien président de Google China,
oui,
et qui disait ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les personnes, mais les personnes qui maîtrisent l'intelligence artificielle qui va remplacer ceux qui ne maîtrisent pas. Moi, je vais prendre cette citation, je vais dire c'est les personnes qui maîtrisent les outils digitaux qui vont remplacer les personnes qui ne maîtrisent pas ces outils.
Ah bah c'est clair.
Aujourd'hui, on est en 2025. On ne peut plus parler de papier et de stylo.
D'ailleurs, ça fait partie des stratégies.
Exactement, tout à fait.
Zéro papier.
Aujourd'hui, il faut utiliser des outils. Aujourd'hui, on a Internet, on a de l'IA, il faut aller vers du cloud, il faut aller vers des solutions. Bien sûr, je parle de solutions locales. On pousse les solutions locales. Quand on n'a pas la solution locale, là, il faut réfléchir à des partenariats stratégiques avec les pays amis.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par des solutions locales, du point de vue technique?
En fait, aujourd'hui, je veux dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises algériennes qui développent des solutions, ce qu'on appelle, par exemple, des systèmes de formation, des systèmes pour enseignement à distance, des outils de gestion administrative, des outils de sécurité, des équipements, ainsi de suite. Donc, on a ces
on a son potentiel.
Bien sûr. Je vais pas dire qu'on est number one, mais on a quelques-uns. Il faudrait les pousser, il faut les aider et tester. Moi, je suis pour qu'on prenne des solutions locales, algériennes, mm-hmm, les tester au niveau de quelques régions. Si ça fonctionne, eh ben, on élargit le champ.
Est-ce que, par exemple, ces entreprises algériennes sont soutenues pour promouvoir leurs produits au niveau des systèmes éducatifs?
En fait, on est en train de voir plein d'événements aujourd'hui, au niveau national. Et même le président de la République, il encourage beaucoup les start-upers, il encourage les entrepreneurs. Regardez qu'est-ce qui a été fait ces 5 dernières années. Mais il reste beaucoup de choses à faire. On peut pas, comme on dit, Rome n'a pas été faite en un jour, mais on peut aller plus loin sur ce côté-là. Donc, il y a des initiatives. Mais il faut pousser aujourd'hui.
Alors, une dernière question avant le sommaire de l'actualité à 8h30. Beaucoup de parents craignent qu'il n'y ait plus ce rapport humain entre enseignants et élèves à cause du tout numérique, où souvent il y a des cours qui se font par visioconférence. Le rapport humain, ce qui n'est pas gâché. Vous qui êtes spécialiste des TIC.
Moi, je suis quelqu'un qui favorise l'utilisation du numérique tout en gardant cet aspect humain. Il faut qu'il y ait toujours cet aspect humain. On pourra en parler tout à l'heure, mais regardant le cas de la Suède qui était full numérique et qui est revenu un petit peu sur ses pas pour réintroduire le côté traditionnel, pour garder cette relation élève, parent et formateur.
Donc, il ne faut pas qu'il y ait de crainte, c'est une question de gestion uniquement.
Exactement, tout à fait. Il faudrait qu'on travaille sur ce côté-là.
Eh ben, très bien. Alors, on va continuer juste après le sommaire de 8h30 présenté par Nabila Hussein.
8h32, deuxième partie de l'invité du jour avec vous, Nesrine Dahmoun, et vous recevez Jalel Bouabdallah, expert en transformation numérique.
Rebonjour Monsieur Jalel Bouabdallah. Concernant toujours la transformation numérique, on est en plein et on a également cette question qui se pose régulièrement, c'est que la surutilisation de l'IA par les étudiants, la surutilisation, on craint qu'il n'y ait plus cet esprit critique, cet effort intellectuel des apprenants.
Alors, si on parle de d'IA, ou on va parler aussi de solutions numériques, où les gens ont peur de la surutilisation des outils numériques, on va dire. Les gens ont peur qu'on perde un petit peu ce côté, ce qu'on a eu, nous, notre génération, un petit peu. On était des gens qui étaient plus cahier, cartable, stylo.
Oui.
Et cette génération, on voit qu'ils sont tous full smartphone, full tablette. Très gamer, très IA, très outils numériques. Je pense qu'il faudrait En Algérie, il faudrait qu'on parte sur ce qu'on appelle une approche hybride, un petit peu.
C'est-à-dire ?
Alors, une approche hybride, c'est-à-dire qu'on va garder, on va maintenir les fondations pédagogiques traditionnelles, c'est-à-dire les cours magistraux, les travaux écrits, les travaux manuels. Il faut les garder, c'est très, très important. Mais on va intégrer progressivement un petit peu les outils numériques, genre des plateformes d'apprentissage, des vidéos pédagogiques, des quiz interactifs, ce genre de choses. C'est très, très important. C'est là où on va, pour moi, c'est là où on va un petit peu inculquer cette culture digitale.
Oui.
En même temps, on peut même intégrer, on va dire, des actions de d'autres institutions. Par exemple, je sais qu'on travaille beaucoup sur l'inclusion financière.
Oui, c'est vrai.
On travaille beaucoup sur les dangers d'Internet un petit peu ou de l'utilisation pour les jeunes enfants.
Au niveau des établissements scolaires.
On peut intégrer ce genre de formation ou d'action au tout début. Aussi, il faut un petit peu adapter un petit peu le rythme d'intégration du numérique en fonction du contexte local aussi, du niveau scolaire. Parce que primaire, CM, lycée, c'est tout à l'heure totalement différent. Et aussi, il va falloir aussi voir les moyens disponibles, tout en veillant à ne pas, comment vous dire, marginaliser les élèves qui n'ont pas ou les enseignants qui sont moins familiers avec le digital. Voilà. Parce que c'est là où on va sentir. Donc il faut aller progressivement, petit à petit, faire ce qu'on appelle du upscaling.
Alors c'est quoi le upscaling pour ceux qui ne connaissent pas comme moi?
Alors upscale, en fait il y a deux mots qu'on entend assez souvent, upscaling ou reskilling. Donc upscaling, c'est-à-dire monter en compétences, donc former, si quelqu'un connaît il y a un certain niveau, donc monter en niveau.
D'accord.
Reskilling, changer carrément de compétences.
Très bien.
On utilisait beaucoup à un certain moment, à une autre époque, on parlait de rescala.
Oui, là ça me parle beaucoup plus.
Mais c'est pas du recyclage, en fait c'était du reskilling. Skills qui vient du mot le mot compétence. Il faudrait travailler sur ce côté-là et je pense que la génération aujourd'hui qui est à la place de nos enseignants, c'est nous qui sommes en train d'enseigner
actuellement, c'est vrai.
Je pense qu'on utilise, mais il y en a quelques-uns qu'il faudrait peut-être les faire monter en compétence et les aider à comprendre, à utiliser, à mieux utiliser, que ce soit de l'intelligence artificielle ou tout autre outil numérique.
Est-ce qu'il ne faut pas contrôler cette intelligence artificielle dans l'apprentissage quand on voit qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle dans la préparation de leur thèse, de leur mémoire, etc.
Alors,
ça, c'est le témoignage même de certains enseignants au niveau universitaire.
Je vais dire, quand on était nous, moi, parfois, je demande à ces professeurs, je leur dis, quand on était nous-mêmes, quand on était
étudiants,
qu'est-ce qu'on faisait pour préparer nos thèses? On partait à l'époque, il y avait Internet qui venait tout juste on était plus ou moins commencé à utiliser Internet, on partait sur les moteurs de recherche. On partait dans les bibliothèques chercher et recopier.
Mais là, en l'occurrence, c'était préparé. Tout est préparé. Oui. En fait, c'est du copier-coller finalement.
Aujourd'hui, il y a des outils pour éviter qu'il y ait du plagiat.
En fait, c'est ça, oui.
Il y a des outils. En fait, les moyens, il y a d'autres moyens pour contrer si on veut éviter le plagiat, le copiage, ainsi de suite. Si vous prenez la Chine. La Chine aujourd'hui enseigne de l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du primaire.
Oui.
Alors.
Mais toujours en ayant un contrôle de l'usage.
Bien sûr, il faut qu'il y ait un contrôle. On va dire un contrôle, on ne va pas dire on va limiter. Non, mais il va falloir avoir les outils qui nous permettent de savoir est-ce que cet outil a été utilisé en full, est-ce que l'étudiant, l'apprenant, l'élève a utilisé ou il a fait confiance totalement à l'IA. Aujourd'hui, juste pour revenir, l'humain restera toujours au centre. L'IA n'est qu'un outil. C'est la même chose comme si on a donné une calculatrice à un comptable ou à un ordinateur à quelqu'un pour travailler.
En fait, ce n'est pas une évolution qu'on doit craindre. Il faut juste savoir la gérer.
Exactement, tout à fait.
Ah bah très bien. On va passer aussi sur l'impact qu'a eu, on va pas dire le processus de généralisation, de numérisation qui a commencé depuis 5 ans. Aujourd'hui, si vous pouviez faire un bilan des avancées qu'il y a eu en matière de numérisation au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.
Aujourd'hui, moi je suis très content quand je vois que toutes les inscriptions au niveau du CEAM, les trois premiers niveaux, donc primaire, CEAM, lycée, se font sur Internet. Mm-hmm. Il faudrait peut-être généraliser que maintenant le paiement des frais d'inscription ne soit pas que pour par la carte DHBA, mais généraliser aussi sur la carte CIB, parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont la carte DHBA, mais qui l'utilisent pas, mm-hmm. qui l'utilisent pas. Donc il faudrait généraliser ça. Même chose pour l'université. Aujourd'hui, on a la plateforme Progress qui est excellente où aujourd'hui les étudiants, c'est du full inscription, full oui. digital. Et vous avez ce qui a été fait au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, l'inscription se fait en ligne. Et surtout qu'il y a eu un focus sur les métiers du digital, que ce soit sur de la cybersécurité, que ce soit sur du cloud, sur du cloud, sur de l'IA. Aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine de métiers qui ont été ajoutés, de spécialités. Et surtout, aujourd'hui, vous voyez que l'inscription se fait en ligne. N'importe qui, moi je peux vous partager, j'ai mon petit neveu qui s'est inscrit totalement en ligne et ça me plaît parce que je peux l'aider, je peux vérifier, je peux conseiller, ce qui était un peu difficile à un certain moment, à notre époque où on était obligé de partir, d'avoir les informations, parfois les gens ne peuvent pas se déplacer, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il a un petit souci, donc regardez comment aujourd'hui ça a vraiment évolué. Oui, c'est bien, il y a encore à faire. Donc, faut pas dire
c'est toujours perfectible.
En fait, pour moi, quand on parle de transformation numérique, c'est pas quelque chose qu'on a atteint et que ça s'arrête. Non. La technologie, elle évolue. Donc, pour moi, la transformation numérique, c'est quelque chose où on est toujours en train de courir. Que ce soit dans le secteur de la formation, de l'éducation. Donc, il faut pousser, il faut toujours être à jour et surtout, il faut toujours à l'écoute et en mode veille.
Alors, que pensez-vous des plateformes qui ont été mises en place, notamment en matière de e-learning, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ? Ça a vraiment le vent en poupe.
Aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameuses LMS, les Learning Management Systems, donc c'est ces plateformes de formation et d'enseignement en ligne, pour moi, c'est très, très important. On le voit. En fait, on avait quelque chose dans ce sens-là quand on parlait d'université à distance.
Oui.
Le Jamia Nbouad, on le voyait quand on était très, très jeune. Aujourd'hui, ou les cours à distance, ou les cours du soir. Aujourd'hui, c'est une alternative. À un certain moment, quand on parlait de ce genre de formation, il fallait ramener le professeur, ramener le formateur. Aujourd'hui, un cours en ligne, on peut avoir un formateur qui peut être à Washington, qui peut être au niveau de Tamandala 7, et même chose pour et vice versa, et même pour l'apprenant, il peut être dans une à Tamandala 7 et le formateur, il est au niveau d'Alger ou de Tlemcen ou d'Oran ou de Constantine. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut pousser ce genre de plateforme. Mais moi, je rajoute quelque chose, sécurisé.
En fait, c'était la question que j'allais vous poser tout de suite. Il y aura énormément de données sur le cloud. Comment sécuriser toutes ces informations des étudiants, des enseignants, du corps enseignant, etc. et du personnel administratif?
C'est très simple. C'est très, très simple. Aujourd'hui, on a des lois. On a des normes internationales. On a des lois. On a des décrets. Et comme je le dis assez souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut montrer l'exemple, il faut déjà, dès le départ, sécuriser. C'est ce qu'on appelle security by design ou ce qu'on appelle privacy aussi by design, où on doit intégrer le concept de sécurité, de confidentialité des informations dès le départ, dès qu'on commence à construire cette plateforme ou ce service-là. Donc, il faut mettre en place les moyens, il faut informer, sensibiliser, que ce soit les apprenants, les formateurs, les administrateurs, tout le monde est concerné et c'est comme ça qu'on pourra réussir et atteindre une certaine sécurité, je ne vais pas dire à 100% parce que ça n'existe pas, et risque zéro, bien sûr, n'existe pas, donc on pourra diminuer le risque et atteindre un certain niveau de sécurité.
Est-ce que c'est déjà le cas pour ce qui est de l'Algérie ?
Oui, aujourd'hui, on a la loi 10.07 qui a été complémentée par la loi 25.11 sur la protection des données. On a le RNSI, le référentiel national de la sécurité de l'information versant 2020. On a une agence, l'ACI, qui est l'agence de la sécurité des systèmes d'information, qui est là pour aider toutes les institutions, que ce soit publiques ou privées. On a des experts, on a des formateurs. Il faut juste faire confiance et aller vers l'avant.
Alors, pour la création de ces sites, de ces plateformes, on voit qu'il y a énormément d'incubateurs qui ont été mis en place, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Que pensez-vous de l'avancée, puisqu'on voit des étudiants, comme disait le ministre de l'économie, monsieur Wadah, des startups qui disaient on a de véritables pépites actuellement en Algérie. Est-ce que c'est ceux-là qui vont contribuer à la réalisation de ces sites?
Ben, que ce soit ceux-là ou d'autres, parce qu'il n'y a pas que les startups, il y a aussi des entreprises qui existent depuis plusieurs années. Mais moi, je suis pour une collaboration et un échange et un travail. Et surtout, je dis toujours, il faudrait qu'il y ait toujours ce partenariat, ce triple P, partenariat public-privé. Et je vais rajouter public-privé, start-up, entreprise. Il ne faut marginaliser personne. Il faut travailler tous ensemble parce qu'on a un seul pays. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, on va dire, de... On n'est plus dans une ère où tout était tranquille. On voit beaucoup de
bouleversements,
qu'ils soient géopolitiques, au niveau de la scène internationale. Donc, il faut vraiment travailler main dans la main et faire avancer les choses et penser à ce qui pourrait faire réussir et faire briller notre pays.
Alors, une autre question qui est un peu liée au numérique, c'est la généralisation de l'utilisation de l'anglais au niveau de l'éducation nationale, etc. En quoi ça va contribuer à améliorer la numérisation des écoles? Est-ce que ça a un lien, la langue?
Moi, je dirais qu'il y a plusieurs langues. Toutes les langues sont les bienvenues pour moi, que ce soit anglais, français, arabe, amazigh, chinois, espagnol.
Ce n'est pas un frein.
Aujourd'hui, quand on cherche, l'information, quand on veut apprendre, il faut utiliser toutes les langues. Aujourd'hui, qu'on apprenne, on connaît tous Donc, peut-être aujourd'hui, c'est aller vers du chinois, aller vers de l'espagnol. Tout ce qu'on a eu, comme même pour le français, c'est un acquis. Pour moi, c'est un butin de guerre, donc on le garde. L'anglais, aujourd'hui, c'est une langue
c'est
technique.
C'est la langue de l'informatique, l'anglais.
Même l'arabe, c'est une langue. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même lui parler avec de l'argot, avec Darija. Donc aujourd'hui, il faut utiliser toutes les langues. Toutes les langues sont les bienvenues.
En fait, il faut rester toujours connecté à l'extérieur, ne pas se refermer.
Exactement. Il ne faut pas se dire, rester enfermé ou cloisonné sur une seule langue. Non, il faut être ouvert à toutes les langues. Certes, l'anglais, c'est la langue qui est utilisée dans les échanges commerciaux aujourd'hui, dans les revues scientifiques, mais aussi des autres langues. Si vous partez vers le côté Orient, vous allez trouver que c'est le chinois qui est dominant.
Ah, ce n'est pas d'accord. Ok. Vous qui avez beaucoup voyagé, donc
vous allez voir, si vous partez en Amérique latine, ça va être beaucoup plus espagnol. Si vous montez en Russie, les gens vont parler en russe qu'en anglais, en français ou en d'autres langues.
Alors, qu'en est-il un petit peu des objectifs qu'il faut créer des objectifs à moyen terme? On est en plein processus de numérisation, on voit que ça avance bien, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire avancer le plus?
Moi, je dirais interconnecter les établissements scolaires.
Ah, ça, c'est intéressant.
Interconnecter les établissements scolaires, standardiser un système d'information partout, au niveau de tous ces établissements. Donc, un seul système d'information où tout le monde va se connecter, où n'importe... ou monsieur le ministre de l'éducation, ou monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, ou madame la ministre de la formation professionnelle, peut avoir accès aux insights, aux informations, à tout moment, à n'importe quel moment, pour qu'on puisse suivre. Ça, c'est ce côté. Donc, si on interconnecte et on met en place un système d'information, après, bien sûr, quand on parle interconnexion et système d'information, bien sûr, il y a d'autres aspects, sécurité, les équipements, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, il y a quelque chose qui peut se faire en parallèle aussi, c'est que généraliser, travailler avec ceux qui créent du contenu aujourd'hui, qui créent de ces supports de cours, et intégrer aujourd'hui le digital et l'utilisation du numérique dans les cours aujourd'hui qu'on est en train de faire parvenir à nos élèves ou à nos apprenants.
C'est-à-dire adapter le programme?
Bien sûr. On ne peut plus rester sur un programme qui date des années 60, 70, 80. On est en 2025. On a une stratégie à vue 2030. Il faut avancer. Il faut actualiser.
Ah ben, ça sera le mot de la fin concernant donc un dernier mot si vous voulez.
Je dirais bonne chance, bon courage à tous les élèves, étudiants, apprenant pour cette nouvelle rentrée 2025-2026.
Qui commence donc dimanche. Voilà, c'était la fin. Merci beaucoup, monsieur Djalebou Abdallah. Je rappelle que vous êtes expert en transformation numérique et en cybersécurité. Merci encore une fois.
Merci à vous.